Super Fail, Guillaume Erner.
Parce qu'il n'y a pas que la réussite dans la vie, Super Fail ne s'intéresse qu'à l'erreur, l'échec, la catastrophe. Super Fail, parce que ça n'est pas si facile de réussir à échouer.
Super Fail.
L'histoire que je vais vous raconter cette semaine illustre assez bien les difficultés de la France à innover, enfin, à innover jusqu'au bout. Comment la France a failli, je dis bien failli, inventer Internet pour finalement développer le Minitel. Un incroyable roman, et si je dis roman, c'est que cette histoire est racontée avec grand talent par Éric Reynard dans son dernier ouvrage « Comédie française » publié chez Gallimard. Comment Internet a-t-il fini par se traduire en français par « Minitel », c'est le super fail de la semaine. Il était une fois, à une époque que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, une sorte de petite télé branchée au téléphone. Ouais, alors déjà, ça c'est compliqué à expliquer, un téléphone avec un fil. Bref, on avait le Minitel.
Au lieu de rechercher dans un bottin qu'on n'a pas toujours, vous voyez tous les bottins qu'il faut, on peut rechercher d'une façon différente avec ce que vous avez appelé, Noël, l'informatique au quotidien. Voilà la forme de cette informatique, c'est un Minitel qui vous permet de trouver des numéros de téléphone, des réclames, les fameuses pages jaunes du bottin, et de retrouver un certain nombre d'indications à partir soit du nom, soit de la localité et du nom, soit du prénom, enfin avec des renseignements incomplets. Vous vous branchez sur un ordinateur qui va vous donner des renseignements complets.
Oui, mais alors pendant que le bottin, tiens, un autre mot que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, pendant que le bottin devenait électronique, d'autres que nous inventaient Internet.
Bienvenue dans le monde d'Internet. En pénétrant dans cette banque mondiale de données, vous rejoignez les 30 millions de branchés, au sens propre, qui naviguent jour et nuit sur ce réseau informatique planétaire. Internet a été créé dans les années 60 par les militaires américains.
Dans l'imaginaire collectif, Internet est une invention américaine. Or, justement, les choses ne se sont pas du tout passées comme cela. Parmi les pères d'Internet, il y a un Français, un certain Louis Pouzin. Écoutez-le expliquer comment tout a commencé.
J'ai intégré l'IRIA quand le gouvernement de Gaulle, à l'époque, avait décidé de faire un réseau comme l'ARPANET. C'est à partir de ce moment-là que je me suis plongé dans les réseaux. Il n'y avait pas grand-chose à lire, d'ailleurs, à l'époque. Et puis, il n'y a pas de machine. C'est en même temps qu'on a écrit le bouquin qui servait d'introduction à ce futur réseau. C'est deux fascicules imprimés par l'IRIA, ce dont les gens pouvaient parler sans avoir besoin de connaissances techniques. C'est ça qui a servi d'introduction au réseau en France. Au bout d'un an, je me suis aperçu que la plupart des gens qui parlaient au nom de l'État ou d'institutions racontait ce qu'il y avait dans ce résumé, quoi. Sans jamais nous citer, d'ailleurs.
Si l'on peut redécouvrir Internet, invention quasi-française, c'est grâce au talent d'un romancier, Éric Reynard, qui explique donc dans Comédie française comment cette France, qui était sur le point de développer le web avec Louis Pouzin, a promu tout autre chose. Et pour Éric Reynard, tout a commencé un samedi matin de 2013. Il buvait son café et là, dans son quotidien, dans Libération, il a découvert le nom de Louis Pouzin, lequel avait été anobli par la reine. Un Français avait inventé Internet et on ne le savait plus. Écoutez Éric Reynard expliquer comment il est parti à la recherche de ce super fail hexagonal, comment il a entamé son enquête pour tenter de comprendre comment avait été enterré cet ancêtre du web, le réseau Cyclades.
J'ai rencontré Louis Pouzin ainsi que Maurice Allègre, le haut fonctionnaire qui était le délégué général à l'informatique au sein duquel était abrité le laboratoire de l'IRIA à Rocancourt où Louis Pouzin élaborait et a inventé le datagramme. Donc le datagramme, c'est l'invention unique au monde qui a permis l'invention et le lancement d'Internet tel que nous le connaissons aujourd'hui. Louis Pouzin avait vraiment innové dans la conception des réseaux de transmission de données, et il avait mis au point voilà un système qui serait trop long là de l'expliciter. Simplement, ce datagramme a éveillé le scepticisme un peu narquois de l'establishment des télécoms. En fait, l'establishment des télécoms françaises, issues des grandes écoles, a assez sur deux de leur savoir et de leurs prérogatives, de leur science, parce qu'ils étaient vraiment très très doués. La preuve, ils ont inventé le Minitel, qui était une merveille de la technologie. Donc l'establishment des télécoms voyait d'un assez mauvais œil l'apparition de cette nouvelle engeance, considérée comme subalterne, des informaticiens. Les ingénieurs de télécom ne voulaient pas, perdre leurs prérogatives sur cette question des réseaux de transmission de données, et ils voyaient les informaticiens comme des concurrents.
Et c'est ainsi que Cyclades est devenu l'ennemi de l'establishment.
Maurice Allègre, qui avait compris et saisi toutes les potentialités extraordinaires du réseau Cyclades de Louis Cousin, avait proposé aux gens du Minitel de s'approprier le réseau, de le prendre, d'en faire leur chose personnelle, pour le développer au cœur du CNET, pour qu'il puisse devenir un jour un réseau opérationnel quand le Minitel aurait démontré ses limites, puisque Louis Cousin et Maurice Allègre étaient convaincus que le Minitel était certes une merveille, mais qu'il était limité, une sorte de somptueuse impasse.
Cyclades a été écarté pour des raisons corporatistes en premier lieu, mais pas uniquement.
Thomson a voulu disputer à la CGE, dirigée par le puissant et diabolique Ambroise Roux, à l'époque le plus gros patron de France, et le plus puissant, le plus riche, le plus malin, intelligent, et qui avait l'oreille du président de la République, etc. Thomson a voulu disputer à la CGE le marché de captifs des commutateurs téléphoniques. Donc c'était vraiment une manne pour la CGE. De sorte qu'Ambroise Roux, donc le président de la CGE, a déclaré la guerre à Paul Richard, le patron de Thomson, et pour lui nuire, il l'a attaqué pour l'affaiblir sur son propre terrain, qui était l'informatique. Et donc c'est pour ne pas laisser Thomson prendre trop de pouvoir, trop de poids, quoi, qu'Ambroise Roux a convaincu Valéry Giscard d'Estaing de disloquer le plan calcul, qui avait été créé en 1966 par le général de Gaulle, la délégation générale à l'informatique, le consortium européen Unidata, qui aurait pu être l'Airbus de l'informatique, et enfin le laboratoire de Louis Pouzin à Roquencourt. Donc en fait, le datagramme, il a été tué deux fois. Il a été tué une première fois par l'establishment des télécoms qui refusait de s'y intéresser parce que c'était la concurrence. Et puis il a été achevé par une espèce de stratégie industrielle à la con, assez basique, conduite par Ambroise Roux pour nuire à son concurrent principal.
Mais alors vous comprenez bien que pour que ce Superfail en soit véritablement un, il ne suffisait pas de jeter aux oubliettes ce qui aurait pu devenir le web made in France, il fallait aussi que les Américains le repèrent et alors eux le développent.
Les Américains se sont emparés du datagramme abandonné par la France, parce que le datagramme était vraiment très en avance. Alors Louis Pouzin, une fois son laboratoire de l'IRIA Roquencourt fermé et la délégation générale informatique disloquée, s'était mis d'accord avec un certain nombre de scientifiques en Europe, mais aussi aux États-Unis, pour mettre au point une norme commune. À partir du datagramme, Louis Pouzin avait dit, voilà, je vais encore apporter quelques améliorations, c'est l'affaire de quelques mois, et une fois ces améliorations apportées, on va en faire une norme commune. Simplement, Bob Kahn et Vin Cerf, donc les soi-disant inventeurs d'Internet, ce que raconte l'histoire avec un grand H, ils ont rusé à ce moment-là. C'est-à-dire qu'ils ont prétendu être trop en avance pour attendre ces nouvelles spécifications, et ils ont lancé leur propre réseau en prenant le datagramme de Louis Pouzin. Ils l'ont juste un tout petit peu modifié pour pouvoir donner leur nom, TCP/IP, au datagramme, mais ce n'est pas si différent qu'on puisse dire qu'il s'agit d'autre chose. En réalité, comme le dit si bien Louis Pouzin dans une formule que j'adore, c'est la même chose, mais en moins bien.
Les Américains ont donc rapidement compris l'intérêt commercial de cette invention. Leur génie a été en réalité de rapprocher deux inventions, le datagramme, bien de chez nous donc, et un drôle de réseau baptisé le web et développé au CERN à Genève. En France, il s'agissait de développer cette technique pour l'offrir au monde. Aux États-Unis, la démarche était sensiblement différente. Du coup, cet échec dévoile une facette de notre pays.
La France n'est décidément pas un pays entrepreneur. Je prends un peu la droite avec humour à ses contradictions, je la prends à son propre jeu en fait. La droite se prétend entravée dans ses rêves de prospérité nationale par l'onéreux modèle social français, par le code du travail si contraignant, par le 35 heures, etc. Comme si les grands coupables du marasme économique français seraient les travailleurs français eux-mêmes. Mais les industriels français, quand on leur apporte la technologie d'Internet sur un plateau d'argent, ils ne sont pas foutus d'en tirer profit, ils la laissent partir aux États-Unis.
Superfail. Alors, cet échec d'Internet est admirablement raconté, comme je vous l'ai dit, dans le roman d'Éric Reynard, Comédie française. Mais en 1978 a été publié un texte, certes moins littéraire, mais plus technique, sur l'informatisation de la société française, le rapport Nora Minck, rédigé par Simon Nora et Alain Minck. Celui-ci avait-il négligé l'importance d'Internet ? Pour répondre à cette question, j'ai contacté le géographe Pierre Bécouche.
Quand on lit le rapport, on s'aperçoit qu'il y a eu, les deux auteurs ont fait un très grand nombre d'interviews, ils sont allés voir les utilisateurs, les producteurs de l'informatique, ils ont bien saisi tous les enjeux. Ce qui est même stupéfiant, c'est de voir comment, aujourd'hui en 2020, on voit 40 ans plus tôt des gens qui ont été d'une prescience absolument sidérante. Et dans ce rapport Noramink, il y a à peu près tout. Il n'y a pas tout à fait tout. Mais on ne pouvait pas demander à des gens qui écrivaient dans les années 70 de savoir l'ampleur de la globalisation, de voir l'émergence de la Chine, de connaître l'intelligence artificielle. Donc il y a un certain nombre d'éléments de l'univers de l'informatique d'aujourd'hui qui leur échappaient. Mais dans l'ensemble, oui, ils avaient vu tout le reste.
Cette prise de conscience de l'importance de l'informatique a-t-elle suffi ?
Verre à moitié vide, verre à moitié plein. Ça a fonctionné parce qu'on voit que le pays est globalement numérisé comme les pays développés du monde. À la fois, il a des compétences informatiques, il a une activité de recherche en informatique, ses grandes branches industrielles sont numérisées, et les pratiques, les usages sont très importants dans toutes les catégories de la population, évidemment surtout chez les jeunes, mais aussi chez les personnes âgées. Et puisque je suis géographe, un dernier élément qui montre que le verre est à moitié plein, c'est que tous les territoires sont équipés, de près ou de loin, beaucoup ou pas beaucoup, tous les territoires sont équipés. Le verre à moitié vide, c'est que notre offre, notre capacité de produire de l'innovation, de produire des biens et des services informatiques, est archi-dominée, comme on sait, par les Américains et demain par les Chinois. Donc ça montre que du côté de l'offre, du côté de la production industrielle, la production de services, de l'innovation, nous avons laissé passer cette révolution fondamentale en grande partie.
Bah oui, parce que l'innovation, ce n'est pas qu'une suite de considérations techniques.
Si vous avez une société qui est fondée sur de très fortes interactions entre les administrés et l'administration, entre le public et le privé, entre les petites entreprises et les grandes, entre la sphère domestique et la sphère économique, entre la politique et la culture. Si vous avez une société relativement fluide, alors c'est une société qui est plutôt apte à saisir cette révolution qui transcende tous les silos et toutes les délimitations traditionnelles et qui est capable de produire de l'innovation. Dans le cas de la société française, on peut dire qu'elle est caractérisée par des silos ou des cloisonnements plutôt forts, forts ou très forts. C'est moins vrai aujourd'hui qu'hier, mais ça reste vrai. Et à l'époque, dans les années 70-80, c'était encore plus vrai. Et quand vous avez une révolution aussi transversale qui apparaît, et qu'elle est, dans le cas français, menée par la haute fonction publique, en réalité, le gouvernement, l'État et quelques grandes entreprises, vous n'êtes pas dans les meilleures conditions pour tirer le parti de toutes les innovations possibles, du côté de l'offre, des grandes comme des petites entreprises, du côté de la demande, du côté de l'administration, du côté de tous les côtés. C'est ça qui s'est passé aux États-Unis, c'est que l'innovation numérique a eu lieu à partir de tous les secteurs d'activité, dans tous les domaines sociaux. Bien, dans le cas de la France, cette numérisation ayant été conduite par les services de l'État et les grandes entreprises, un peu dans ce qui était le reste du système gaullien qui avait été mis en place dans les années 50, nous n'avons pas tiré parti de tout ce qu'on pouvait innover, trouver, inventer dans l'ensemble du corps social.
Et c'est cela finalement la conclusion de ce Superfail. Un inventeur seul ne peut pas grand-chose, sauf peut-être se faire dérober son invention. Voilà pourquoi c'est toute une société qui doit être orientée ou pas vers la capacité à développer de nouvelles techniques. Nous, en France, nous avons développé de jolis Minitel, parce qu'après le Minitel en noir et blanc à la maison, nous avons eu un beau Minitel en couleur. Superfail a été gâché à la production par Juliette Deveau, ruiné à la réalisation par Vivien Demeyer et également piétiné à la technique par Emmanuel Morse-Duncan. Superfail.